Salut à vous survivants et survivantes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de votre podcast 100% québécois sur Dead by Daylight. Et aujourd'hui, on est rendu au deuxième épisode de Autour du feu de camp. Deuxième épisode en solo dans lequel on va tout réviser justement les perks de Keller qu'il y a dans le jeu. Il y en a énormément, exactement comme les perks de survivants, mais cette fois-ci, j'ai appris un petit peu dans mon erreur dans le premier épisode parce qu'il y avait 2-3 perks que la description était pas fameuse dans le wiki. Là, on est directement dans le jeu, fait qu'on est sûr qu'on se trompera pas à ce niveau-là. On est accompagné de mon meilleur ami, le lapin. Je peux-tu le tourner? C'est magnifique, on va faire l'épisode comme ça. Et aujourd'hui, ça va être le dernier épisode en solo avant les 2-3 prochains. Avec lesquels j'ai déjà des invités bien intéressants que vous allez pouvoir découvrir dans les futurs épisodes. Fait que là, ça fait déjà à peu près un bon 2 semaines depuis le premier épisode. On va essayer un petit peu d'accélérer la cadence. Je vais essayer vraiment d'y aller au une semaine et demie pour pas qu'il y ait trop de temps entre chaque épisode parce qu'on a tellement de sujets à couvrir. Vous pouvez même pas imaginer, c'est insane. Il y a plein de choses que je vais explorer, j'ai eu plein d'idées. Puis vous verrez ça dans le futur. Fait qu'on commence, mesdames et messieurs, on va essayer de rentrer dans une heure. On commence avec le perk Agitation, que vous connaissez sûrement. Donc en fait, ça augmente votre vitesse pour déplacer un corps de 18%. Donc pendant le transport du corps, votre rayon de terreur augmente de 12 mètres. Donc le fait que le rayon de terreur augmente de 12 mètres, ça peut être aussi accouplé à bien d'autres trucs, comme le malus de soins, exemple du clown, etc. Et surtout, au niveau du transport du corps, c'est presque impossible que vous n'allez pas réussir à accrocher quelqu'un sur le crochet, même s'ils sont bien éloignés. Et ça, c'est des trucs, des fois, qui sont bien utilisés avec un autre perk. Après ça, on a Amasseur. Premier perk, là, que je me demande, c'est quoi? Ça va faire une petite révision en même temps. Donc, les survivants dévoilent leur position quand ils interagissent avec un coffre ou lorsqu'ils ramassent un objet à moins de 64 mètres de votre position. La partie commence avec un maximum de 2 coffres supplémentaires sur la carte. Avec ça, je viens de m'en rappeler, en fait, c'est un challenge qu'il y avait cette semaine. Fait que je l'ai utilisé, mais ça ne m'a pas vraiment servi en tant que tel. Après ça, on a Appel de la mer, qui est le nouveau perk de l'Onrio. Donc, qui est vraiment un perk extrêmement fort, je trouve. C'est comme un peu un ruine mobile. Après avoir endommagé un générateur, cette compétence s'active pendant 60 secondes. Donc, pendant 60 secondes, le générateur régresse à 200% de sa vitesse normale de régression et vous pouvez voir son aura en jaune. Chaque fois qu'un survivant réussit un bon test d'habilité sur un générateur affecté par cette compétence, vous recevez une notification sonore. Et pendant 60 secondes, c'est vraiment une belle vue sur un générateur. Ça, là, c'est très fort. Je l'adore avec plusieurs killers. Aucune issue. Donc, quand un survivant interagit avec un interrupteur de la porte de sortie, vous recevez une alerte sous forme d'une indication sonore. L'entité bloque alors les deux interrupteurs de la porte de sortie pendant 12 secondes plus 12 secondes supplémentaires pour chaque jeton en votre possession. Fait que c'est quand même pas pire. Et pour les jetons, après avoir suspendu un survivant à un crochet pour la première fois, aucune issue gagne un jeton. Donc, si vous avez accroché une fois chaque personne, 12 plus 12 plus 12 plus 12, ça fait 48 secondes, plus 12, c'est une minute. Ça peut être fort, ça! Puis ça m'a déjà, quand j'étais survivant, ça m'a déjà un petit peu trigger. Fait que ça peut être vraiment fort. Boucher sadique, vous connaissez tous. C'est quoi? C'est-à-dire que ça augmente la vitesse à laquelle la progression des soins est perdue à cause d'hémorragie de 25%. Les deux effets de statut sont ôtés une fois le survivant complètement guéri. Mais c'est quand même beaucoup plus long de se guérir. Après ça, nous avons Bricolo. Donc Bricolo. Quand Bricolo est actif, chaque fois qu'un survivant effectue un excellent test d'habilité pendant une réparation, vous voyez son aura pendant 10 secondes. Donc, quand un survivant perd un état de santé, Bricolo s'active. Fait que ça peut être pratique justement pour un petit peu repérer le monde dans la map. Après ça, on a Chili Barbecue que vous connaissez tous, que moi j'utilise sur pas mal toutes mes killers parce que je forme des blocs points puis en même temps, j'augmente tous mes personnages. Donc, après avoir pendu un survivant à un crochet, les auras de tous les autres survivants vous sont révélées pendant 4 secondes s'ils sont à plus de 40 mètres du crochet. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, à un moment donné, c'était 32 mètres. Je sais pas d'où ça venait dans ma tête, mais bref. Donc, ça donne aussi un 25% de points bonus de blood points cumulables chaque fois qu'un survivant est pendu à un crochet. Fait que quand vous mettez sur le crochet chaque personne au moins une fois, vous avez un 100% de plus de blood points à la fin de la partie. Fait que ça, c'est vraiment pas négligeable. Après ça, on a claustrophobie. Donc, chaque fois qu'un générateur est terminé, les fenêtres et les sauts d'obstacles qui se forment dans un rayon de 32 mètres... Ils sont verrouillés. Mon Dieu, j'ai de la misère avec cette phrase-là. Attends, on recommence. Chaque fois qu'un générateur est terminé, les fenêtres et les sauts d'obstacles qui se trouvent dans un rayon de 32 mètres sont verrouillés pour tous les survivants pendant les 30 secondes suivantes. Fait que ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose que j'avais utilisé un peu avec Freddy Morgan. Je l'appelle comme ça, je sais, c'est pas son vrai nom. C'est un petit peu inside sur le live. Ben, c'était vraiment pratique. Fait qu'au lieu d'avoir justement Bulbasaur ou whatever, ben, ça peut être une alternative. Après ça, on a Coolrophobie, le perk du clown. Votre seule présence inspire l'effroi. Donc ça, c'est un petit peu le perk que je vous parlais tout à l'heure. Les survivants dans votre rayon de terreur ont 50% de malus de vitesse de soin. C'est énorme. Énorme. Avec ça, ça peut être vraiment bon, accouplé à d'autres perks, bien sûr. Et selon le killer, si tu joues avec Myers, ça va vraiment être moins bon. Après ça, on a coup de grâce. Chaque fois qu'un générateur est terminé, coup de grâce gagne en puissance. Donc, vous gagnez un jeton. Et vous consommez un jeton, en fait, qui va servir à augmenter votre distance de votre prochaine attaque chargée de 80%. Ça aussi, c'est quand même énorme. Je l'avais déjà utilisé, j'aimais bien ça. Le coup du pendu. Vous recevez une alerte quand un survivant commence à saboter un crochet. Lorsque vous portez un survivant, vous voyez l'aura du moindre survivant à 6 mètres d'un crochet. Et ça, c'est vraiment pour contrer justement les saboteurs avec une trousse à outils ou même avec le perk saboteur qu'il y a. Ok? Fait que ça, je sais, il y a beaucoup de killers qui chantent par rapport à ça, mais il y a un perk pour le contrer. Bon, vous allez me dire qui joue avec ça. Effectivement. Mais il y a un perk pour le contrer. On peut pas chialer tant que ça. Il y a un perk pour contrer l'autre perk. Ok. Après ça, on a le perk cran dément. Là, je vous l'ai pas dit au niveau des tueurs, je vais essayer de vous le dire pour les prochains. Le cran dément, c'est un perk de la Légion. Donc, quand vous portez un survivant, vous ne subissez pas de temps de récupération pour les attaques de base manquées. Et ça, mesdames et messieurs, accouplé à l'autre, c'est insane. Alors, tu peux down quelqu'un littéralement parce que tu marches autant vite que quand t'as personne sur le dos. Avec le perk qu'on avait vu au début, là, qui était tout simplement amasseur. Oh my god! Donc, quand tu touches un autre survivant avec une attaque de base, ça va interrompre le chronomètre durant lequel le survivant porté peut se débattre pendant 4 secondes. Vraiment fort, vraiment fort. Des fois, je pense que jouer avec ça, ça surprend le monde. Là. Après ça, on a le perk du Cynobite, donc le crochet flagellateur don de souffrance. Au début de la partie, jusqu'à 4 crochets aléatoires sont changés en crochets flagellateurs, donc vous voyez leur aura en blanc. Quand un survivant est libéré d'un crochet flagellateur, il souffre des effets de statut hémorragie et estrompiment jusqu'à ce qu'il soit complètement soigné. La première fois que le survivant est soigné, il subit une pénalité de 9% aux soins et aux réparations jusqu'à ce qu'il soit de nouveau blessé. Ça peut être fucking fort, ça. Vraiment, là, les crochets flagellateurs, oh my god. Et on en a un autre crochet flagellateur, donc maintenant le flot de rage. Donc au début de la partie, comme l'autre, il y a 4 crochets aléatoires qui sont changés en crochets flagellateurs, donc en crochets blancs. Quand un survivant est libéré d'un crochet flagellateur, le rat de tous les survivants est révélé pendant 7 secondes. Donc il y a vraiment un bulle d'affaires quand même, hein. Et on a encore une fois un autre crochet flagellateur. Je sais pas pourquoi mon truc s'y fuck. Attendez, gars, un petit problème technique. Voilà, on est de retour. Je vous laisse avec la petite musique en même temps. J'adore vraiment cette playlist-là sur Spotify. Elle est détente, elle est pas trop épique. Puis vraiment, en fond, j'adore ça. Donc, quand un survivant est accroché sur un crochet flagellateur, le générateur avec la meilleure progression explose et perd immédiatement 15% de sa progression et commence en plus à régresser. Les survivants qui rapportent le générateur révèlent leur position. Fait qu'il y a vraiment un bull assez énorme à faire, puis c'est vraiment fort. Après ça, on a Discordance. Donc, tout générateur à une distance de 128 mètres en cours de réparation par au moins 2 survivants est signalé en aura jaune. Quand le générateur est illuminé pour la première fois, Discordance déclenche une notification sonore sur le générateur. Lorsque le générateur n'est plus à portée ou n'est plus en cours de réparation par au moins 2 survivants, l'aura subsiste, j'ai besoin de dire ce mot-là, pendant 4 secondes. Fait que ça aussi, c'est un truc qui peut être vraiment fort. Souvent, quand les survivants vont travailler ensemble, bien, vous allez directement savoir où aller. Après ça, dispositif de l'homme mort. Lorsque vous suspendez un survivant à un crochet, dispositif de l'homme mort s'active pendant 45 secondes, mesdames et messieurs. Une fois activé, tout survivant qui s'arrête avant d'avoir entièrement réparé un générateur fait que l'entité bloque ce dernier jusqu'à la fin de l'effet de dispositif de l'homme mort. Les générateurs affectés sont entourés d'une aura blanche. Donc ça aussi, c'est un truc qui est quand même assez fort, que j'ai vu souvent. Il est venu un petit peu me déboussoler. Et après, déboussoler, le perk déboussoler, c'est génial, tout est relié. Votre vitesse lors d'un saut d'obstacle est 15% plus rapide, et sauter par-dessus un obstacle fait que l'entité bloque le lieu de cette action pendant 16 secondes. Ça, je l'utilise avec beaucoup de killers qui ont juste du M1 et qui n'ont pas forcément des attaques à distance. C'est vraiment fort. C'est vraiment un must-have sur certains killers, donc ça peut être vraiment intéressant. À savoir par contre que des boussoleurs ne fonctionnent qu'à un endroit à la fois. Donc vous ne pouvez pas comme bloquer deux fenêtres en même temps, bien sûr. Ennemis jurés, vous cherchez à vous venger de ceux qui vous ont fait du mal. Donc dès qu'un nouveau survivant devient l'obsession, il est affecté par l'effet de statut inconscient pendant 60 secondes et vous voyez son aura pendant 4 secondes. Le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant à la fois. Voilà. Mais ça, en fait, quand l'obsession change durant la game, ça peut être vraiment intéressant. Après ça, on a Espion de l'ombre. Les corbeaux peuvent communiquer directement avec vous. Dans 100% des cas, les corbeaux vous donnent un signal visuel quand vous vous trouvez dans un rayon de 36 mètres. Espion de l'ombre a un temps de recharge de 5 secondes. Donc, si un survivant dans un rayon de 36 mètres fait peur à un corbeau, vous le voyez. Vous voyez où le corbeau est décollé. Vous voyez pas le survivant, mais où le corbeau est décollé. Donc pour le monde qui se cache très bien, les Claudettes de ce monde, ça va être très pratique. Vraiment, là. Après ça, on a fait ton choix que j'aborde avec l'Unreal, qui est un perk du cochon, excusez-moi, j'oublie tout le temps de vous dire lequel un, mais au moins, c'est le but, c'est vraiment de faire le tour des perks et de voir qu'est-ce qui est possible. Quand un survivant en libère un autre d'un crochet à au moins 32 mètres, donc 32 mètres et plus, quand vous vous éloignez du crochet, fait ton choix, force le survivant à crier et lui apporte l'effet de statut à découvert pendant 60 secondes. Donc pendant 60 secondes, vous pouvez le one-shot avec un M1. Et fait ton choix un temps de récupération de 60 secondes, donc bien sûr, durant la game. Puis ça va arriver plusieurs fois que vous allez pouvoir l'activer. Après ça, on a le perk du farceur, donc fascination. Quand vous portez un survivant, tout autre survivant dans votre rayon de terreur subit l'effet statut à découvert. À ça, je m'en rappelle quand c'était arrivé. L'effet persiste pendant 30 secondes sur les survivants qui quittent votre rayon de terreur et sur ceux dans le rayon, lorsque vous suspendez ou relâchez le survivant porté. Fascination a un temps de recharge de 60 secondes. Fait que c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire comme perk, sincèrement. Là. Donc pendant 30 secondes, c'est deux fois moins que fais ton choix. Mais il y a possibilité de faire les deux. Ouais. La force brute. Donc une force immense vous permet de réduire en lambeaux les défenses de vos proies. Utilisez les palettes lâchées, les murs qui peuvent light et les générateurs 20% plus vite. Donc ça peut être bon avec plusieurs killers. Donc on a frisson aussi palpitant. Après avoir ramassé un survivant, tous les générateurs non réparés par les survivants sont bloqués par l'entité et ne peuvent pas être réparés pendant les 16 prochaines secondes. Les générateurs affectés sont entourés d'une aura blanche. Donc frisson palpitant ne peut être activé qu'une fois toutes les 60 secondes. Avec ça, avec ruine, là, oulala, oulala, ça fait mal, ça fait mal. Après ça, on a fureur de l'esprit avec la spirit, bien sûr. Donc quand vous après avoir détruit deux palettes, la prochaine que vous serez étourdi, en fait, l'entité va la détruire. Donc, vous faites stunner par une nouvelle palette. Après avoir détruit deux palettes, elle se détruit automatiquement. Mais par contre, tu souffres quand même de la pénalité du stun. Après ça, on a gardons le meilleur pour la fin. Gardez le meilleur pour la fin. Je sais pas s'ils l'ont changé ou si dans ma tête, c'était gardons. Vous êtes obsédé par un survivant. Vous obtenez un jeton à chaque attaque de base portée qui n'est pas infligée à votre obsession. Chaque jeton octroie une réduction cumulable de 5% sur la récupération des attaques de base réussies et vous pourrez engranger jusqu'à 8 jetons. Ça, là, c'est extrêmement fort. J'utilise souvent avec le démon Gorgon parce que démon Gorgon, j'attaque normalement ceux qui ne sont pas mon obsession et je fais l'attaque spéciale chargée sur mon obsession, mais ça ne m'enlève pas de jetons parce que ce n'est pas une attaque de base, mais elle est quand même facile à placer. Fait que ça, là, c'est vraiment fort avec certains killers spécialisés. Frapper votre obsession avec l'attaque de base, vous ferez perdre 2 jetons. Fait que ça fait mal là, quand vous prenez votre obsession avec l'attaque de base. Donc pour moi, c'est pas un perk qu'on peut mettre avec un Freddy ou avec des killers qui ont juste un M1. Okay? À moins de tout le temps esquiver l'obsession, mais à un moment donné, il faut l'accrocher l'obsession. Fait que voilà. Le tueur ne peut être obsédé que par un survivant à la fois. Alors, on a Gardien de sang qui provient de Freddy Morgan. Dès qu'une porte de sortie est ouverte, Gardien de sang est activé. Les auras des survivants situés dans les zones de sortie vous sont révélées. Et une fois par partie, prendre un survivant à un crochet lorsque le gardien de sang est activé fait appel à l'entité pour empêcher tous les survivants de sortir pendant 60 secondes. Avec ça, là. Oh my god! Il y a eu des belles séquences de trolls avec ça parce que les survivants étaient bagués. T'accroches quelqu'un, la sortie est bloquée, et bute tout. Avec ça, là, ça peut être vraiment fort. Après ça, on a hystérie. Donc, vous savez comment maltraiter un membre d'une équipe pour provoquer la panique. Lorsqu'un survivant est blessé par n'importe quel moyen, tous les survivants blessés souffrent de l'effet de statut inconscient pendant 30 secondes. Hystérie peut uniquement être déclenchée toutes les 30 secondes. Donc voilà, c'est un peu du Némésis. Après ça, on a Impasse qui provient du Cinnabite. Donc quand un générateur est réparé, l'entité bloque le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes. Vous voyez son aura en blanche pendant ce temps. Encore une fois, avec Ruine, oulala que ça fait mal. Implacable, donc un perk général. Les attaques manquées par votre arme principale ont un temps de rechargement plus court. Le temps de rechargement des attaques de base manquées est réduit de 30%. Je pense que c'est plus pour les débutants. Donc, c'est pas un perk que j'utilise. Après ça, on a Inquiétant, un autre perk général. Votre épouvante odeur porte incroyablement loin. Votre rayon de terreur augmente de 26%. Fait que vous faites le lien avec les perks de tout à l'heure, avec le rayon de terreur. Obtenez 100% de points de sang supplémentaires pour les actions de carte de catégorie sournoiserie. Fait que ça, pour du farming de blood points, c'est vraiment bon. Parce que même si tu fais pas 4 kills, ta sournoiserie va monter beaucoup plus. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Puis en plus, ça s'accoupe avec d'autres perks. Fait que... J'avais pas pensé à mettre ça. Pour du farming, peut-être dead, hein? Peut-être. Insidieux, vous connaissez tous malheureusement, avec les Lélés et compagnie. Surtout les Lélés. Restez immobile pendant 2 secondes pour bénéficier de l'effet de statut indétectable. Pas de rayon de terreur. Jusqu'à ce que vous bougiez ou agissiez à nouveau. Ça, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est de la merde. Instinct territorial de la Huntress renforce la capacité de repérage d'aura. Les auras des survivants vous sont révélées pendant 3 secondes lorsqu'ils entrent dans la cave et que vous vous trouvez à plus de 32 mètres. Il faut être vraiment loin quand même. Donc voilà, ben à peu près comme un chili barbecue. De l'entrée de cette dernière, instinct territorial ne peut être activé qu'une fois toutes les 20 secondes. Ça peut être pratique pour vrai. Ça peut être pratique. Après ça, on a intensité ardente qui provient d'un perk de Freddy. Donc pour chaque générateur réparé, vous obtenez un bonus cumulable de 4%. Jusqu'à la fin de la partie sur la vitesse de ramassage, de lâcher, de saut d'obstacles, de destruction de palettes, de générateurs et des murs qui peuvent l'être. J'ai jamais vraiment utilisé, mais là, il me donne le goût. Il me donne le goût de juste l'essayer avec d'autres trucs. Fait que, à voir. Intervention impure. Vous la connaissez. Vos prières invoquent une puissance maléfique qui compromet les chances des survivants de s'en sortir. Les trois générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 120 secondes. Fait que ça, c'est au début de la partie. Les trois générateurs les plus loin sont bloqués pendant 2 minutes. Et après ça, ben, votre perk est mort. Mais pour les débuts de game, ça peut être vraiment intéressant. Et ça, c'est un perk de l'épidémie. Après ça, on a Je vous écoute de Ghostface. Débloque le potentiel de repérage d'aura d'une personne. L'aura de tout survivant effectue une action précipitée à moins de 48 mètres de votre position et est révélée pendant 6 secondes. Donc quand vous rentrez dans un casier rapidement, une fenêtre, etc., ça va faire que vous allez le voir. Je vous écoute ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 40 secondes. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, mais pourquoi pas. Donc, jouez avec la nourriture. Vous êtes obsédé par un survivant. Chaque fois que vous chassez la cible de votre obsession et que vous la laissez s'échapper, donc vous rentrez une chaise et elle s'enfuit, vous recevez un jeton jusqu'à un maximum de 3 jetons. Chaque jeton augmente votre vitesse de mouvement de 5%. Ça peut être vraiment fort. Mais par contre, effectuer une attaque de base ou une attaque spéciale consomme un jeton. Le tueur ne peut être obsédé que par un survivant à la fois. Ça fait attention. Ça peut être pas pire. Après ça, on a Ko, donc qui est un perk du cannibale. Donc, l'aura des survivants auxquels vous infligez l'état critique avec vos attaques de base est pas révélée aux survivants qu'ils se tiennent à plus de 16 mètres. Fait que ça, là, le monde ne sait pas y où. Contre des PU, là, c'est vraiment fort. Contre du monde en Survivor with Friend, un peu moins. Parce que malheureusement, ben, ils vont se communiquer. Fait que le perk sert un peu à rien. Donc, les survivants auxquels vous infligez des taux critiques avec vos attaques de base rendent 50% plus lentement pendant 15 secondes. Pendant ce temps, les survivants sont affectés par l'effet de statut aveuglement, mais qui ne voient pas la personne à plus de 16 mètres. Le tour est joué, vous connaissez tout ça. Donc, en fait, quand vous allez accrocher quelqu'un sur un crochet, vous allez avoir 45 secondes pour aller briser un générateur avec votre pied. Et quand vous allez avoir brisé ce générateur, il va régresser, bang, immédiatement de 25%. Puis il va commencer à régresser, bien sûr. Fait que le tour est joué, là, le perk du clown. Moi, je l'ai sur beaucoup de killers, puis j'adore ça. Lien mortel. Quand un survivant soigne un état de santé d'un autre survivant à au moins 32 mètres du tueur, le survivant qui effectue l'action de soin se met à crier, révélant sa position en activant lien mortel pendant les 60 prochaines secondes. Pendant ce temps, le survivant souffre de l'effet de statut inconscient quand il est à plus de 8 mètres du survivant soigné. J'ai jamais utilisé ça. Un perk du bourreau. Jamais utilisé. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont utilisé. Moi, non. Après ça, on est limier. Donc, un perk de la Spirit. Tel un chien de chasse, vous flairez les traces de sang à grande distance. Les traces de sang frais sont considérablement plus visibles et peuvent être suivies pendant 4 secondes de plus que la normale. Ça peut être très fort, surtout avec la Spirit, bien sûr. De bien suivre le monde. Donc, surtout quand ils ont volonté de faire. Vraiment intéressant. Pour certains killers. Lumière mourante. Vous devenez obsédé par un survivant. Votre obsession bénéficie d'un bonus de 33% à la vitesse d'action pour décocher et soigner d'autres survivants. Deuxième zone, Denmark, what the fuck, c'est quoi ce perk? Attention! Chaque fois que vous accrochez un survivant autre que votre obsession, si elle est en vie, vous gagnez un jeton. Si l'obsession est en vie, tous les autres survivants reçoivent une pénalité de vitesse de réparation, de sabotage et de soins de 3% pour chaque jeton. À un moment donné, ça vient se rééquilibrer. Moi, j'utilise pas vraiment ça, mais voilà. Murmure d'acier. Débloque une capacité de repérage de rats. Chaque fois qu'un générateur est complètement réparé, les survivants, dans un rayon de 16 mètres du générateur, sont révélés pendant 5 secondes. Lorsque le dernier générateur est entièrement réparé, tous les auras des survivants sont révélés pendant 10 secondes. Voilà. J'ai jamais vraiment utilisé ça. Apparemment que c'est pas pire, mais j'en ai rien à foutre. J'ai jamais utilisé ce perk-là. Mais bon, t'es moi, j'ai un style de jeu assez basic, mais voilà. Après ça, on a un murmure qui est vraiment bon avec, je trouve, la spirit, j'avais bien aimé ça. Donc, murmure, en fait, ça fait que vous comprenez la voix de l'entité de façon rudimentaire. Donc, entendez sporadiquement le murmure de l'entité lorsqu'un survivant se trouve dans un rayon de 32 mètres. En fait, il y en a qui l'utilisent avec la meuse. Mais bon, voilà. Murmure, ça peut être pratique pour trouver des survivants. Mais il faudrait que je l'essaye à un moment donné. Il faudrait que je me fasse une soirée spéciale que je joue des perks que je joue jamais pour vraiment découvrir un peu leur gameplay. Ça pourrait être intéressant. À façon de oppression, donc lorsque vous endommagez un générateur, un maximum de 3 autres générateurs aléatoires régressent également. Et ça peut être fort. Ça peut être vraiment fort. Oppression, un temps de recharge de 80 secondes. Si les générateurs affectés sont en cours de réparation, tous les survivants en train de les réparer doivent effectuer un test d'habilité difficile. La petite barre, là. Et voilà. Voilà. Fait que, ouais, ça peut être pas pire. Hein. À façon de peur contagieuse de l'épidémie, les cris des infidèles font bondir votre cœur. Les survivants présents dans votre rayon de terreur pendant qu'un autre survivant entre en état critique hurleront, vous révélant leur position pendant 6 secondes. C'est un peu qui est énormément utilisé avec l'Oni, parce que pendant son pouvoir, il s'en va vers l'autre. Fait que c'est vraiment, je trouve, un truc vraiment bon avec l'Oni pour slugger pendant que... Ben, pas slugger, mais t'es faire plusieurs kills pendant que t'as ton pouvoir, puis en profiter. Là. Fait que c'est beaucoup utilisé avec l'Oni. La piste de souffrance, un peu du bourreau. Donc après avoir frappé un générateur, vous devenez indétectable jusqu'à ce que le générateur cesse de régresser, ou bien qu'un survivant soit blessé ou mis en état critique. Pendant ce temps, le rat du générateur est révélé au survivant, en jaune. Cet effet ne peut être activé qu'une seule fois toutes les 60 secondes. Fait que ça là, à faire attention, il y a des sneaky peasy qui utilisent ça. Après ça, on a pisteur. Donc en fait, ça révèle l'aura des survivants en état critique dans un rayon de 36 mètres. Fait que quand tu logs, tu sais plus où, ben voilà, pisteur. Poigne de fer. Votre poigne de fer rend toute tentative de fuite presque impossible. L'effet des ruades des survivants est réduit de 75%. Si vous savez pas c'est quoi des ruades, c'est quand vous allez de gauche à droite en tant que killer, quand vous avez quelqu'un justement sur les bras. Le temps nécessaire pour se libérer de votre étreinte est augmenté de 12%. Fait que je sais pas si vous faites des liens, vous mixez ça avec l'autre perk de tout à l'heure qui fait que vous allez plus rapidement. Oh là là, ça fait un combo de feu de dieu. La poursuite furtive maintenant de Ghostface, donc vous devenez obsédé par un survivant, vous guettez dans l'ombre, éliminant vos victimes les unes après les autres. Quand votre obsession est suspendue à un crochet, poursuite furtive reçoit un jeton, jusqu'à un maximum de 4 jetons. Chaque jeton réduit votre rayon de terreur de 4 mètres pendant une poursuite. Quand un survivant sauve l'obsession d'un crochet, le sauveteur devient l'obsession. Donc le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant à la fois. Vous voyez le truc? Elle devient un peu le bordel. Fait que pour certains killers, ça peut être bon, moi je l'ai jamais utilisé. Donc, poursuivant meurtrier, vous avez été conçu pour traquer et éliminer vos cibles. Au début de la partie, vous voyez l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes. Fait que vous les voyez vraiment longtemps, mais tu jumes ça avec l'autre perk, intervention maléfique, puis peut-être que ça peut être vraiment pas pire. Mais sachez que c'est un perk en début de game. Après ça, c'est terminé, il disparaît. Et après 9 secondes, t'as plus rien. Mais ça peut aider en début de game à trouver directement le monde. J'ai pas vraiment utilisé. Mais quand j'étais survivant, certains killers m'ont pas mal attaqué rapidement grâce à ça. Fait que ça dépend. Après ça, on a la prise du dragon. Donc après avoir frappé un générateur, le premier survivant qui interagit que dans les 30 prochaines secondes se met à crier, dévoilant sa position pendant 4 secondes et il souffre de l'effet de statue à découvert pendant 60 secondes. Prise du dragon a un temps de recharge de 80 secondes. Fait que c'est un peu comme un fait ton choix, mais fait ton choix c'est 60 secondes, donc ça se recharge plus rapidement. Mais faut que t'aies mis quelqu'un sur le crochet, nanana. Fait que prise du dragon, par contre, quand les survivants le savent que t'as ça, ils sont capables de le dodger. Fait que ça peut être très bon par contre. Vraiment, là. Et ça, c'était un perk avec le fléau, donc c'est-à-dire le blight. Nous avons prédateur avec le spectre. Donc les marques des rafleurs laissées par les survivants apparaîtront considérablement plus proches les unes que les autres. Fait que ça, vraiment, les marques rouges à terre quand les survivants courent, ben, tu les vois beaucoup mieux. Ça peut être intéressant. Après ça, on a prédation. Donc ça octroie en fait le. Ben, en fait, c'est un perk de la Huntress. Ça octroie l'effet de statut indétectable après l'obtention de soif de sang palier 1. L'effet de statut est supprimé dès que vous perdez soif de sang. Vous gagnez 50% de points de sang supplémentaires en exécutant des actions de la catégorie chasseur. C'est quoi pour soif de sang? C'est quand vous avez en fait l'espèce de blood rush. En fait, quand vous avez l'écran flou parce que vous avez, ça fait je sais plus combien exactement de secondes. J'aurais dû m'informer par rapport à ça. Mais après exemple 15 secondes de chase, vous avez un boost de vitesse. Donc c'est ça la soif de sang, tout simplement. Fait que ça peut être intéressant. Présence perturbante. Donc votre seule présence inspire la peur. Les survivants qui se trouvent dans votre rayon de terreur ont 10% de chances supplémentaires d'activer des tests d'habilité lors des réparations ou des soins. Les zones de succès sont réduites de 60%. Ça peut être bon contre, justement, quand vous êtes proche des générateurs, ils sont presque terminés. Là. Fait que ça peut être intéressant. Présence écrasante. Votre seule présence inspire une véritable peur. Donc, vous voyez un petit peu dans le genre de perk qu'on est en ce moment. Le taux de consommation d'objets des survivants affectés est augmenté de 100% dans votre rayon de terreur. Pas pire! On a pris une tendance forcée du bourreau. Donc, les survivants qui subissent un coup de protection sautent de l'effet de statut brisé pendant 80 secondes. Donc, quand vous protégez quelqu'un qui est blessé, vous mangez un coup pour votre ami, et pendant 80 secondes, vous ne pouvez plus vous soigner. Ouch! Rancœur que vous connaissez sûrement. Chaque fois qu'un survivant est terminé, ouch! Le survivant est fini. Chaque fois qu'un générateur est terminé, l'obsession voit votre aura pendant 3 secondes. Chaque fois qu'un générateur est terminé, les positions de tous les survivants vous sont révélées pendant 3 secondes. Une fois que tous les générateurs sont terminés, l'obsession possède l'effet de statut à découvert et le tueur peut éliminer l'obsession. Donc le Mori, carrément. Fait que, ouais, rancœur, c'est très fort parce que même si t'es en P1, il peut te Mori, le petit maudit, si t'es l'obsession. Enfin, game. Ça fait mal. Rejetons de l'ombre. Ça, là, je trouve ça intéressant puis je trouve que ça devrait être dans le jeu de base. Mais bon, j'adore ce perk, mais ça m'enlève un perk. C'est-à-dire que vous avez un FOV supplémentaire de 15 degrés. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le FOV, c'est le Field of View. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une vue plus large dans le jeu. Et ça, c'est souvent, vous voyez ça souvent dans les FPS. Il n'y avait pas ça sur console avant. Maintenant, c'est de plus en plus démocratisé. Mais c'est incroyable dans des BD jouer avec ça. Mais merde, ça t'enlève un perk. Après ça, on a rejeton de la lumière, du montagnard. Donc, l'aura des survivants qui tentent de vous aveugler est révélée pendant 10 secondes. Tout simplement. Ben voilà, avec les grenades aveuglantes, les mines explosives, les lampes de poche, les pétards, etc., etc. Après ça, on a réparateur que vous connaissez probablement tous. Lorsqu'un générateur est réparé à 70%, une notification sonore est déclenchée et vous bénéficiez de l'effet de statut indétectable pendant 16 secondes. Fait que moi, ça, avec l'artiste, j'adore ça parce que je focus mes corbeaux vers le générateur. Et en plus, il y en a qui m'entendent pas. Fait que là, j'arrive par surprise et voilà, voilà. Sanctuaire monstrueux. Donc, la fervente attention que vous accordez aux crochets du sous-sol a suscité l'intérêt de l'entité. Les crochets du sous-sol confèrent les bonus suivants. 9% de progression de plus de l'entité. Avec 9% en fait que de temps de moins que les survivants ont pour décrocher la personne. 15% d'augmentation de la difficulté des tentatives d'évasion. Et 9% d'augmentation des pénalités d'échec de libération. Et quand tu mets du monde au crochet, ils sont quasiment morts. En gros, c'est pas mal ça. Avec un Lily, c'est mort. Après ça, on a secousse. Plonger un survivant dans un état critique avec une attaque de base provoque l'explosion immédiate et le recul de tous les générateurs dans un rayon de 32 mètres. Fait que c'est pas tellement élevé, mais ça peut être vraiment bon. Les générateurs affectés par secousse perdent immédiatement 8% de leur progression. Secousse peut uniquement être déclenchée une fois toutes les 40 secondes. Voilà. Summer de peur, qui est un peu du démon Gorgon qui n'est plus achetable malheureusement en ce moment, ça on va en reparler dans un futur podcast. Quand il répare le générateur, les survivants sautent des effets de statut aveuglement et épuisement. Tout chronomètre d'effet de statut épuisement existant est mis en pause, fait que ça fait mal, là, pendant que le survivant répare un générateur. Donc en gros, t'as utilisé ton dead heart, ben, si tu as un gen et il te reste 30 secondes, il va encore te rester 30 secondes quand tu vas lâcher le gen. Ouch. Après avoir terminé la réparation, le survivant souffre des effets de statut aveuglement et épuisement pendant 5 secondes. À quelqu'un qui Kobe le gène et qui lâche, il y a une palette à côté, ben il peut pas utiliser son Dead Heart. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Et quelle heure vous avez? On a plein de trucs. On a plein de trucs pour contrer survivant, pour un char, c'est des petits trucs de même. Au final, on a tous les perks. C'est juste qu'on peut juste en choisir 4 par game. T'sais. Sombre dévotion, qui est tout simplement de l'épidémie. Vous devenez obsédé par un survivant. Si vous parvenez à toucher votre obsession avec une attaque de base, vous lui transférez votre rayon de terreur pendant 30 secondes avec un rayon de 32 mètres et vous bénéficiez de l'effet de statut indétectable pendant toute cette durée. Donc le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant, bien sûr. Le survivant avec le rayon de terreur transféré est également considéré comme étant à l'intérieur du rayon de terreur à toutes les fins utiles. Donc le survivant, il s'entend lui-même. Contre des PU, c'est vraiment fort. Mais contre des survivors with friends, à un moment donné, ça rend compte, ça va être un petit peu moins bon. Mais encore là, t'es indétectable, fait que ça peut être intéressant pour pogner quelqu'un sur un gen. Sombre étreinte de l'artiste. Chaque fois qu'un survivant est suspendu à un crochet pour la première fois, vous gagnez un jeton. Et après avoir atteint 4 jetons, sombre accolade s'active. Donc l'entité bloque tous les générateurs pendant 40 secondes et vous voyez l'aura de l'obsession pendant 5 secondes. Avec une ruine, ça fait mal. La sort de la berceuse de la chasseuse, qui est bien sûr la Huntress. Donc les survivants subissent un malus de régression de 6% quand ils ratent un test d'habileté, en soignant ou en réparant. Je mélange les mots aujourd'hui! Oh là là! Grosse semaine de meurtre! Chaque fois qu'un survivant est suspendu à un crochet, la berceuse de la chasseuse gagne en puissance et affecte les avertissements de tests d'habileté de soins et de réparation. 1 à 4 jetons. Le délai entre le son d'avertissement du test d'habileté et ce dernier se raccourcit. Vous allez avoir le son, en fait, décalé de l'image pour faire vos skill checks. Et ça peut être vraiment bon. Mais surtout à 5 jetons, aucun avertissement sonore. Fait que là, vous devez vous débrouiller. Fait que ça peut être vraiment bon, des fois, puis handicapant. Mais c'est un sort. Donc, c'est un totem ensorcelé. S'il enlève le totem, c'est terminé. Après ça, on a un autre sort de totem avec le lance-mort. Donc, tout survivant qui interagit avec un totem passif ou ensorcelé subira l'effet de statut inconscient pendant 45 secondes. Si un totem ensorcelé est retiré, y compris celui-ci, l'aura de tous les survivants est révélée pendant 15 secondes. Châtiment! Attention! Après ça, on a Contrôle des foules qui a un autre sort avec le farceur. L'entité bloque une fenêtre pendant 20 secondes après qu'un survivant ait fait un saut précipité au travers. J'ai déjà utilisé ça, c'était vraiment bon. Vraiment, j'ai adoré ça. Mais c'est un totem, fait qu'on peut le perdre. Un autre sort, Euphorie de la chasse, gagner 10% de points de sang en plus par jeton pour les actions de la catégorie chasseur. La vitesse de purification et de bénédiction de totem des survivants est réduite de 10% pour chaque jeton. D'accord? Et vous gagnez un jeton pour chaque totem ensorcelé ou passif restant sur la carte. Fait que ça, accouplé à d'autres perks, ça permet de mieux protéger vos totems. Très, très intéressant si vous êtes un player de totem. Faveur de sang. Blesser un survivant invoque l'entité pour bloquer les palettes dans un rayon de 32 mètres autour de la position du survivant pendant 15 secondes. Fait que ça, vous jumelez avec l'autre ici qui est contrôle des foules. Et my god, que ça fait un beau combo pour les killers qui ont juste du M1. Vraiment, là, incroyable. Donc, dans un rayon de 32 mètres pendant 15 secondes. Et les effets du sort, ben, jusqu'à temps que le totem soit enlevé. On a Immortel, que vous connaissez sûrement, qui fait bien chier les survivants. Donc, pendant que le sort immortel est actif, l'aura des survivants à moins de 4 mètres d'un totem passif est révélée. Quand un autre totem ensorcelé est purifié, le sort de ce totem est transféré au totem sort immortel, désactivant ce sort. Tous les jetons du sort transféré le sont également. Fait que ça fait mal, immortel. Ça fait mal, bordel. Après ça, on a jouet. Donc la première fois que vous suspendez un survivant à un crochet, il subit malédiction et le sort jouet s'active sur un totem passif. Le totem passif ou qu'il en reste dans la map, c'est à faire attention. Le survivant maudit souffre de l'effet de statut inconscient jusqu'à ce que le sort jouet soit purifié. Donc lui-même, il faut qu'il détruire, purifier le totem sur lequel lui il est attribué. Puis l'aura du totem affecté par le sort jouet est dévoilé au survivant maudit lorsqu'il s'en trouve à au moins 16 mètres. Pendant les premières 90 secondes, seul le survivant maudit peut purifier le totem. Ah, ben tu vois, moi je pensais que c'était n'importe quand. Donc pendant les 90 premières secondes, il y a juste toi-même qui t'es fait pogner pour l'enlever. Après ça, les autres peuvent l'enlever. OK. On apprend. C'est ça le but aussi. Le troisième saut qui est un autre sort de la harpie. Donc, un sort qui entrave la capacité de repérage de rats. Frapper un survivant avec une attaque de base ou une attaque spéciale pendant que le totem ensorcelé est actif, applique l'effet de statut aveuglement. Cet effet s'applique aux 4 derniers survivants frappés. Les effets du sort persistent tant que le totem ensorcelé est en place. Avec aveuglement, ça fait mal, mesdames et messieurs, parce que vous voyez plus rien. Nothing! Alors, je prends une petite gorgée. Ça fait du bien qu'on parle beaucoup, ça fait vraiment du bien. Après ça, on a mangeur d'espoir que vous connaissez sûrement tous. Quand un survivant est sauvé d'un crochet qui se trouve à au moins 24 mètres, mangeur d'espoir reçoit un jeton. Rendu à 2 jetons, 5% sur l'effet de statut rapidité, donc le killer va un petit peu plus vite, 10 secondes après avoir suspendu un survivant et pendant 10 secondes. Ah là 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 là! À 3 jetons, les survivants souffrent du statut à découvert. Donc tu one-shot tout le monde, mon ami. Si le totem n'a pas été enlevé et t'es à 3 jetons, tu one-shot tout le monde. Et rendu à 5 jetons, as-tu les moris? T'es one-shot, mais en plus t'es moris. Même si on peut être accroché. Ça peut être vraiment fort. Comme ça peut être enlevé au début de la partie. Noed! C'est-à-dire personne n'échappe à la mort. Un perk que je ne joue plus parce que je trouve que c'est aberrant. Comment que c'est trop fort et je trouve ça horrible. Gagner des games avec ça. Noed, en fait, ben, les survivants subissent l'effet de statut à découvert. Puis votre vitesse de mouvement est augmentée de 4%. Donc c'est un totem qui va apparaître dans la map une fois que les portes de sortie sont alimentées. Donc si un totem passif est encore présent sur la carte, ce sort s'y applique. Si on tout enlevé les totems, ça marchera pas. Mais aujourd'hui, le monde a moins tendance à enlever les totems, justement à cause des booms totems. Fait que ça vous permet de one-shot tout le monde tant que le totem est là. Moi, je suis... Non. Après ça, on a repentir. Tabarouette, il y a un méchant paragraphe, mes amis. Vous voyez le rang des totems détruits. Vous pouvez effectuer un rituel sur un totem détruit pour le raviver sous la forme d'un totem ensorcelé du sort repentir. Pour chaque totem ensorcelé actif en même temps, repentir obtient un effet supplémentaire. Je trouve que ça a dû être un peu qui serait arrivé avant les booms. Parce que là, justement, le monde a moins tendance à détruire les totems. Parce que c'est avec l'artiste. C'est arrivé un peu trop tard. Mais un totem ensorcelé réduit la vitesse de réparation des survivants de 30%. C'est énorme. Deux totems, ça réduit la vitesse de soins en plus à 30%. Et trois totems, ça réduit la vitesse de récupération des survivants après avoir été abattu de 30%. Et après ça, après quatre totems... Donc, si tu prends 4 totems, il y a un problème. Réduit la vitesse d'ouverture de la porte de sortie des survivants de 30%. Bon, c'est un peu moins important, mais quand même. Il y a 5 totems et tous les totems sont bloqués par l'entité. Ça, je pense, j'ai jamais vu ça. De rendre à 5 totems, là, il faut le vouloir. Hein. Il faut vraiment que les survivants aient fait de la merde un peu. Ok. Après ça, on a Ruine. Vous connaissez tous Ruine. Tous les générateurs sont affectés par le sort Ruine. Si un générateur n'est pas en train d'être réparé par un survivant, la progression de sa réparation régresse immédiatement et automatiquement à 200% de la vitesse de régression normale. Fait que toutes les, ça, c'est plusieurs. C'est tous les générateurs. Fait que s'il y a 3 générateurs qui sont lâchés, les 3 ils régressent. Mais c'est un totem. C'est vraiment fort. Vraiment fort, surtout dans certaines maps, parce que c'est beaucoup plus compliqué de le détruire, puis surtout quand le killer le protège bien. On était rentré. Donc, 2 totems ensorcelés piégés apparaissent durant la partie. Lorsque l'un des 2 totems ensorcelés piégés est purifié par un survivant, tous les survivants souffrent de l'effet de statut à découvert pendant 60 secondes. Donc, pendant 60 secondes, tu peux te faire one shot. N'importe qui. Et en plus, il y en a 2. Fait que c'est en plus de Undying, le sort immortel, ça fait mal. Souviens-toi de moi, vous devenez obsédé par un survivant. Donc, à chaque fois que votre obsession perd un état de santé, le temps d'ouverture des portes de sortie est augmenté de 4 secondes jusqu'à un maximum de 16 secondes supplémentaires. Donc, l'obsession n'est pas affectée par « Souviens-toi de moi » et le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant. J'ai pas vraiment utilisé, ça peut être quand même bon parce que surtout 16 secondes, c'est quand même long. Là. Pour ouvrir une porte, là, 16 secondes de plus, ouch. On a Stridor, donc vous êtes extrêmement sensible à la respiration de votre proie. Donc, c'est un perk de l'infirmière. La respiration des survivants en difficulté est 50% plus forte et la respiration normale est de 25%. Avec la spirit, le stridor, là, j'adore. Pour vrai, même avec la... Ben, avec l'infirmière, en fait, tu vois toujours ta cible. Mais t'es avec certains killers, ça peut être vraiment bon, dont la spirit quand tu le vois, t'es vois pas parce que t'es en téléportation. Fait que pensez à stridor. Surcharge. Donc la haine du progrès vous anime. Surchargez un générateur en effectuant l'action endommager le générateur. Donc, le prochain survivant à interagir avec ce générateur doit faire face à un test d'habilité d'une difficulté énorme. Et ça, c'est bien sûr un perk du docteur. Échouer au test d'habileté génère une perte de progression supplémentaire de 5%. Réussir le test d'habileté ne génère aucune progression, mais empêche l'explosion du générateur. Ça, ça peut faire chier les Gen Rush. Surveillance, un perk de la cochonne. Donc, le générateur... OK. Donc, si l'inversion est interrompue... Attends, excusez-moi, on va le lire au complet, parce que même moi, surveillance, je sais c'est quoi, mais je sais pas comment vous l'expliquer. Renforce la capacité de repérage de rang. Tous les survivants inversés sont entourés d'une aura blanche. Les générateurs! Hey, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je mélange les deux mots. Ouch, ouch, ouch. Tous les générateurs inversés sont entourés d'une aura blanche. Donc, quand vous l'avez tapé. Si l'inversion est interrompue, le générateur se retrouve entouré d'un aura jaune pendant 16 secondes. Les bruits causés par la réparation d'un générateur sont audibles à 8 mètres de plus. Fait que vraiment, pour protéger les jeunes, c'est vraiment nice. Surveillance et maltraitance. Donc, quand vous pourchassez un survivant, votre rayon de terreur augmente de 8 mètres. Dans le cas contraire, il est réduit de 8 mètres. Et votre champ de vision s'élargit de 10 degrés. Fait que ça, c'est un peu une compensation par rapport à l'autre, justement, que ça a augmenté le FOV. Je trouve ça vraiment plus intéressant. Donc, un autre perk du docteur. Après ça, on a la tactique de Zanshin, un perk de l'Oni. Vous voyez l'aura de l'ensemble des palettes, murs, destructibles et emplacements de sauts d'obstacles dans un rayon de 32 mètres. Je l'utilise pas, parce qu'en règle générale, je connais les maps, mais ça peut être intéressant pour les nouveaux joueurs, j'imagine. Après ça, on a la tempête impitoyable fraîchement sortie avec l'Onryo. Quand un générateur atteint 90% de sa progression, les survivants qui travaillent sur ce générateur se retrouvent confrontés à des tests d'habileté en continu. S'il en rate un ou interrompt leur réparation, le générateur est bloqué par l'entité pendant 20 secondes. Ah, c'est pas pire. Mixé avec réparateur, là. On a tenace maintenant du montagnard, donc vous résistez à la douleur. Donc vous réduisez la durée des étourdissements par palette de 50%. Fait que mixé avec l'autre perk qui permettait de les briser automatiquement. Hein, c'est pas pire. N'a aucun effet pendant le transport d'un survivant. Fait que ça faire attention. Thanatophobia. Thanatophobie, maintenant que ça s'appelle. Donc, vous connaissez sûrement. Moi, j'adore ça avec la Légion. Pour chaque survivant blessé en état critique ou suspendu à un crochet, tous les survivants reçoivent une pénalité de 5% jusqu'à un maximum de 20%. Pour autant de réparation, de sabotage et de purification de totems. Donc, juste les soins qui sont vraiment pas affectés. Vraiment fort, justement, contre les jeunes Rush. Trépas de Franklin, donc le perk de Franklin avec le cannibale. Donc, s'il n'est pas aux attaques de base, force les survivants à lâcher leur objet à l'impact. Ça, là, contre toutes les medkits, etc., c'est vraiment bon. S'il n'est pas ramassé, l'objet au sol perd toutes ses charges au bout de 90 secondes. Dévoile les objets au sol à moins de 32 mètres à l'aide d'une aura blanche. Donc, l'aura vire lentement en haut rouge jusqu'à ce que l'objet soit vidé de ses charges. Vierge de fer, un peu que j'adore. Vous ouvrez les casiers 50% plus vite. La N2S, merci. Le Twixter, merci. Vraiment excellent. Quand un survivant sort d'un casier, il souffre de l'effet de statue à découvert pendant 30 secondes et crie, ce qui révèle sa position pendant 4 secondes. Fait qu'en plus, avec le Twixter et la N2S, que c'est vraiment utile, ben ça one-shot le monde qui sont cachés dans des casiers. Si vous êtes capable de les avoir. Hey, il nous reste déjà 3 perks. Vocation de l'infirmière, vous connaissez sûrement. Donc, les auras des survivants qui donnent des soins ou en reçoivent ou sont révélés dans un rayon de 28 mètres. Vraiment bon avec beaucoup de killers. J'adore ce perk. Écho sanguin, donc avec c'est un perk de l'Oni. Lorsque vous suspendez un survivant, tous les survivants blessés souffrent des effets de statut hémorragie et épuisement pendant 45 secondes. Écho sanguin a un temps de recharge de 60%. Carte Dead Hard, ça fait chier que le killer est ça, hein? Ça fait mal en tabarnak. Et le dernier perk, mesdames et messieurs, de Nemesis, qui est tout simplement éruption. Donc, après avoir frappé un générateur, son aura apparaît en jaune. Lorsqu'un survivant plonge en état critique, tous les générateurs affectés explosent, perdant 6% de leur progression, et ils commencent à régresser. Tous les survivants qui réparent un générateur, quand ils explosent, se mettent à crier et souffrent d'effets de statut immobilisés pendant 16 secondes. Éruption a un temps de récupération de 30 secondes. Avec ça, avec, là, c'est un truc qui peut être quand même assez fort, mais je vais vous l'avouer, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que je suis tellement avec mes perks à moi, que des fois, j'ai de la misère, juste pourquoi j'ai mon chargeur dans les mains? Je suis comme avec mon chargeur de cellulaire dans les mains. J'aime ça avoir quelque chose dans les mains. Fait que c'est pas quelque chose que j'utilise, mais ça va peut-être être quelque chose que je vais avoir à tester. Je sais pas. Je sais pas si vous, Éruption, c'est un perk qui vous parle. Donc, Irruption, c'est pas forcément un perk que moi je vais utiliser. Le seul moment que je l'ai utilisé, c'était vraiment quand j'avais pas le choix avec l'adepte. Mais sinon, je sais pas si vous vous l'utilisez, mais moi, c'est pas vraiment mon genre de perk. Fait que voilà, mesdames et messieurs, on a surfé sur toutes les perks des killers. J'en remarque au final que certains killers chialent sur certains éléments dans le jeu, mais il y a des perks pour contrer justement les trucs qui nous énervent. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de perk qu'on va prioriser. Mais il faut faire des choix. On n'a pas le choix, il faut faire des choix. Donc, c'est ça. Moi, je joue vraiment à killer un petit peu plus chill, mais là, je me rends compte que le monde qui prenne ça vraiment plus au sérieux, bien, il y a quand même beaucoup de moyens de contrer certaines choses vraiment tannantes, dont justement les medkits, la chute de Franklin et compagnie. Mais c'est sûr que ça te bouffe quand même des perks. Fait que c'est pas forcément quelque chose qu'on va directement aller là-dedans, t'sais. Parce que ça t'enlève tes perks de base. Mais là, quand on joue avec des méta perks, à un moment donné, il y a une balance à faire. Donc c'est sûr que les survivants doivent aussi avoir des moyens de défense. Et si malheureusement, ben, le killer n'a pas les perks pour les contrer, ben ça augmente la force des survivants sur certains aspects, bien sûr. Fait que j'espère que ce deuxième épisode va vous avoir plu. Dès le troisième, on va avoir justement notre premier invité qui va être là. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter et de jaser avec lui pour vous faire découvrir un petit peu son univers. Je pense que ça va vraiment être intéressant et que ça va vraiment aussi vous plaire. Donc j'ai hâte de voir vos retours là-dessus. Les deux premiers épisodes étaient vraiment un petit peu des cours de rattrapage, si je peux dire, dans lesquels, vu qu'on a deux épisodes, de se remettre les pendules à l'heure pour les perks de survivants et de killer, parce que pour les prochains chapitres, bien sûr, on va y aller un petit peu plus précisément, parce qu'il va y avoir 6 perks normalement par chapitre, à moins qu'il y ait des fois 3 personnages. Là, on va avoir plus de perks à couvrir, et on va vraiment analyser les futurs perks, et voir qu'est-ce qui est possible dans les prochains chapitres. Surtout que là, l'anniversaire arrive à grands pas, c'est le 17 mai, sachez que je vais couvrir l'événement en live, et vous allez avoir ma réaction, bien sûr, après ça, sur YouTube. Fait que, merci à vous autres d'avoir été là pour ce deuxième épisode d'Autour du Feu de camp, votre podcast 100% québécois sur Dead by Daylight. Et je vous dis tout simplement à la prochaine.